Radio G. www.radio-g.fr.
Dimanche 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. Avec la participation de Aide 49, dont nous fêtons les 40 ans, nous vous proposons une émission spéciale. Si vous voulez tout savoir sur cette maladie qui a traumatisé toute une génération et qui continue à se propager en 2024, rendez-vous dimanche 1er décembre à 19h sur Radio G, en FM sur les 101.5, en DAB+, ou radio-g.fr. À dimanche 1er décembre, 19h.
Du vendredi 29 au samedi 30 novembre 2024, le défi 24 heures Angers-Téléthon vous invite à venir marcher ou courir dans la bonne humeur à l'étang Saint-Nicolas à Angers pendant 24 heures. Avec 40 000 km comme objectif à faire tous ensemble, sur place et même chez soi sur un tapis de marche, n'importe où en France. Profitez d'un village d'animation avec restauration sur place et d'une ambiance festive. Le défi 24 heures Angers-Téléthon, du vendredi 29 novembre à 16h au samedi 30 novembre à 16h. Plus d'informations sur défi24h.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne de Radio G. Ce soir, nous serons avec Eman Gua pour parler du Salon de la Diversité. C'est ce week-end, les 29 et 30 novembre. On va tout vous expliquer de ce qu'est ce salon et de l'association qui porte ce salon, bien évidemment, l'association Ezra Inclusion. Ça, ce sera en première partie d'émission. Et en deuxième partie d'émission, on va aller du côté des Hauts-de-Saint-Aubin avec le CLAC, le collectif pour le lieu artistique et culturel Camille Lepage de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Pour le nom officiel, on va parler notamment du groupe Plateau Ciné. Souvenez-vous-en, l'an passé, on en avait déjà parlé. On sera avec Guenel et Nicolas pour évoquer tout ça. Et en troisième partie d'émission, il y a beaucoup de choses ce soir. Nolwenn, on va peindre des tableaux.
Exactement, on va partir à la rencontre de Christophe Crépin qui exposera ses œuvres ce week-end à Bushman, à la pointe de Bushman.
Et ce sera vraiment en toute fin d'émission autour de 18h50. Entre-temps, on aura aussi Nicolas, un autre Nicolas avec Vélopédia pour interroger des cyclistes sur des pistes cyclables. Voilà, c'est souvent là qu'on les trouve, ça tombe bien. Ce sera autour de 18h30, 35, 37 même. Topette, c'est parti pour ce soir, on y va parce que vraiment, il y a un gros programme qui commence.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et parce que Yael est revenu hier pour nous faire le point sur les actualités, Nolwenn s'est dit, bah moi aussi je vais reprendre ma place, donc ce soir on fait un point sur les actus locales avec toi Nolwenn. Et on commence avec cette question, faut-il ou non armer la police municipale à Angers ?
C'est une question à laquelle Christophe Béchu, le maire d'Angers, voudrait répondre en 2025. S'il y était fermement opposé en 2014, ce n'est plus vraiment le cas. Alors la gauche et la droite s'entendent pour dire que oui, la violence et la délinquance ont bien augmenté à Angers. On le rappelle, en août dernier, il y a eu un meurtre rue Parcheminerie. Et on ne le rappelle plus, en juillet 2022, le triple meurtre sur l'esplanade Cœur de Maine. Alors les deux camps ne s'accordent cependant pas sur la réponse à apporter. La minorité exige plus de moyens humains et matériels pour la police nationale, en affirmant que ce n'est pas le rôle de la police municipale de se rendre en premier lieu sur les lieux de violence. Le ministère de l'Intérieur a été sollicité pour plus de moyens, mais Jeanne Bier-Robinson, l'adjointe au maire, estime qu'Angers ne peut pas attendre les promesses de l'État. Elle cite, je cite, « Il faut remettre du cadre car il y a un grand lâchage collectif ». Depuis 2015, la police est armée de pistolets à impulsion électrique et depuis 2021 de lanceurs de balles de défense. En bref, le sujet promet des débats houleux au conseil municipal. C'était plutôt déjà le cas ce lundi. Affaire à suivre.
On connaissait les voitures qui verbalisaient les excès de vitesse. Maintenant, des voitures banalisées pour peut-être verbaliser les parkings qui ne sont pas payés.
Et oui, attention, si vous ne payez pas vos places de stationnement à Angers, la ville a doté l'une de ses voitures d'un système qui lit les plaques d'immatriculation pour verbaliser ce qui ne paierait pas. La voiture est équipée de capteurs qui scanneront les plaques. L'objectif est de repérer en temps réel les numéros qui n'apparaissent pas dans la base de données où sont enregistrés par exemple les paiements à l'heure, les abonnements des résidents ou des professionnels et les droits de stationnement notamment des personnes handicapées. Alors la mesure ne sera effective que le 1er mars 2025, mais pas de panique, en vérité à Angers on est plutôt bon élève, 80% des usagers payent leur place de stationnement.
Sinon, Nicolas, qui sera avec nous tout à l'heure, nous dirait « déplacez-vous à vélo, ça évitera de payer le stationnement, car oui, c'est gratuit ». Rien à voir sinon, les dates à retenir, le défi 24 heures Angers Téléthon, c'est ce week-end, à partir de 16h vendredi jusqu'au 16h le lendemain, donc le samedi 30 novembre, 24 heures pour marcher ou courir autour de l'étang Saint-Nicolas, décidément beaucoup de Nicolas dans Topette ce soir. C'est pour la bonne cause, c'est pour le Angers, pour le Téléthon, bien évidemment. Plus d'infos sur défi24h.fr et la compagnie des passeurs de l'impalpable vous propose des secrets au pluriel aux Folies Angevines à 20h. Ce sera le 3 décembre et plus d'infos là aussi sur leur site internet lespasseursdelimpalpable.fr. Et pour ce qui concerne nos invités, restez avec nous puisque les voilà qui arrivent.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Emma.
Bonsoir Pierre Bernois.
Emma Ngoa, tu es camerounaise d'origine avec un parcours remarquable qu'on pourra peut-être évoquer tout à l'heure si tu le veux bien, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps puisque avant tout ça on va parler ensemble du Salon de la Diversité. Alors c'est ce week-end aussi, les 29 et 30 novembre, avec ASBI, une association d'artisans camerounais à 3 millions de membres, alors non pas à Angers puisque nous n'avons pas 3 millions d'habitants bien évidemment, et tout ça, ce salon est porté par l'association Ezra Inclusion dont tu es à l'origine si j'ai bien compris. Et là aussi, tu vas pouvoir nous en parler. Là, on aura le temps, c'est sûr et certain. Mais avant tout ça, le salon de la diversité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, Emma? Déjà, c'est où? C'est sur Angers?
Oh oui, Pierre Bernois. Merci beaucoup pour cette invitation. Et merci de donner cette occasion de parler du salon de la diversité qui a lieu justement au Digital Village, 12 boulevard Jean Moulin à Angers. Et qui veut mettre en évidence des talents issus de la diversité via une exposition multiculturelle d'artisans justement issus de la diversité et des personnes qui ont des talents, hein, qui ont des talents mais qui n'osent pas les mettre en valeur. Donc cette exposition est une occasion d'amener ces personnes-là à oser rendre visibles les talents.
Alors, le Digital Village, c'est la tour type, hein, c'est la nouvelle tour qui est à côté de l'Ezéo, hein, pour bien localiser.
Exactement, oui.
Précisément, alors la diversité au sens large, ça s'adresse à qui? Quel est le public cible, entre guillemets, pour aller contempler cette exposition?
Alors, ce salon est ouvert à tous. Hein. Justement, la diversité, c'est la multiculture, c'est des personnes venues d'ici et d'ailleurs, hein. Qui ont des talents, hein, qui ont des talents à faire découvrir, hein, aux populations, aux personnes de différents horizons. Ce n'est pas quelque chose de vraiment atypique, qui cible des personnes, hein, ou un public particulier. C'est ouvert à tous, puisque la diversité, c'est un ensemble. C'est plein de couleurs, c'est plein de matières. C'est des senteurs, c'est des goûts, que ce soit du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mexique, par exemple. Tout ça est mis ensemble pour faire découvrir, hein, ces objets et ces artisans au public angevin.
Emma, tu proposais d'insister sur ASBI, qui du coup est partenaire du Salon de la Diversité. Peut-être que ce serait de bon ton de présenter ce qu'est ASBI.
Oui. ASBI est une association camerounaise, qui englobe fondamentalement des artisans et majoritairement des femmes. Ce sont ces femmes qui font l'économie camerounaise, puisqu'elles se réveillent très tôt le matin pour aller soit dans le domaine de l'agriculture ou pour fabriquer tous les objets qu'on pourrait trouver aussi sur le salon de la diversité. Ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont très très peu de moyens pour créer ce qu'elles proposent. Et une des un des objectifs d'Ezra en se mettant en partenariat avec ASBI, c'est de pouvoir proposer aussi ces créations au public en juin et en même temps faire découvrir une autre culture à ces populations. Et en même temps, ça aidera ces femmes à pouvoir s'occuper de leurs enfants, à pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et vraiment, c'est une des raisons vraiment fondamentales qui nous a amené à ce partenariat-là.
Emma, tu commences à l'évoquer, Ezra, on va en parler dans quelques instants, mais puisque nous sommes déjà avec nos autres invités, et puis avec Nolwenn, j'aimerais les faire réagir sur ne serait-ce que le terme de diversité. Nolwenn, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la diversité ou les diversités, le mot?
Ça m'évoque plein de cultures mélangées qui vivent ensemble, qui apprennent à se connaître toutes les unes entre les autres.
Et toi, Nicolas, alors, Nicolas, oui, parce que je t'ai vu réagir tout à l'heure quand j'annonçais Nicolas, il y a eu beaucoup de Nicolas ce soir, mais Nicolas, content. Ça t'évoque quoi, le mot diversité, toi?
Je sais pas, c'est ce qu'on essaie de faire à la maison de quartier, en montrant des films diversifiés à destination d'un public diversifié aussi. Enfin, on essaye.
Ouais, Ganaël, diversité, c'est un mot plutôt positif dans ton esprit, j'imagine.
Oui, exactement. Je trouve ça très positif. D'ailleurs, je l'ai noté puisque j'habite à côté de la Tour Type, donc j'espère que j'irai ce week-end. Vraiment, félicitations pour cette belle initiative. Et ASBY,
merci.
ASBY, ça s'écrit comment?
C'est A-S-B-Y.
D'accord.
Donc ça c'est l'association des Bayam Selam. Bayam Selam qui veut dire en camerounais, c'est un jargon camerounais qui veut dire achat et revente. Donc il y a beaucoup de ces femmes qui font de l'achat et revente et font vraiment bouger l'économie camerounaise.
Alors le salon de la diversité pour Ganaël, par exemple, les infos pratiques, comment on pourrait aller, puisqu'on est en train d'en parler, est-ce qu'il faut réserver, est-ce qu'il faut payer, c'est en libre accès, comment ça marche, comment on peut derrière aussi peut-être soutenir Ezra, dont on va parler dans quelques instants, ou les créatrices, on a compris que c'était des créatrices principalement.
Oui, le salon de la diversité qui a lieu donc justement ce week-end, de 9h à 18h, le 29 et le 30 novembre. Donc, ça donne cette occasion aux personnes de pouvoir s'y rendre. Et heureusement que sur ces quartiers, on est très bien desservis par le réseau de transport. Hein. Merci la ville de Angers, d'ailleurs. Nous avons l'arrêt de tram Ezeo, l'arrêt de bus Ezeo ou l'arrêt de tram
Jean Moulin.
Jean Moulin, oui.
Qui est devant
Moulin.
Le lycée juste à côté, oui.
Oui. Et votre question, l'autre question.
L'autre question, c'était sur les infos pratiques, mais on pourra les redonner plus tard, en fin d'émission, vraiment concrètement, okay. Comment se renseigner sur le salon de la diversité. Mais puisque le salon de la diversité, c'est la partie émergée, la partie visible, on va dire, du travail que produit, que réalise Ezra, Inclusion, précisément, pour le terme complet que tu portes. Emma, justement, Ezra, maintenant, si on en parle de cette association, quel est le but? C'est vraiment de valoriser l'individu, de permettre l'épanouissement de chacun dans la diversité et dans le collectif, j'ai cru comprendre.
Oui, mais avant de parler d'Ezra, c'est important aussi de connaître qui est derrière Ezra. Donc Ezra est venu de quelque part, d'une histoire qui est la mienne, une histoire qui m'a construite depuis mon enfance, puisque je suis une femme issue d'une famille divorcée. À 3 ans, mes parents ont divorcé et j'ai été ballottée de famille en famille pour prendre soin des enfants des autres. Et à l'âge de 8 ans, j'ai été témoin d'une situation et j'ai été menacée de ne pas en parler. J'ai osé le faire et je me suis retrouvée dans une cellule pendant 12 heures. À 10 ans, en rentrant de l'école, j'ai été pris par une personne dans une voiture, soi-disant pour me ramener chez moi. En chemin, il m'a abusé sexuellement. Jusqu'à 12 ans, j'ai connu donc des moments de ma vie qui étaient vraiment très brutales. J'ai été séquestrée pendant une semaine et abusée. Heureusement que la France, j'ai eu une occasion de venir en France à l'âge de mes 18 ans. Donc c'était dans le commerce. C'était une opportunité commerciale. Lorsque je suis arrivée en France, j'ai trouvé une occasion de fuir, de prendre la fuite de ces souffrances de mon enfance. Mais on se rend très vite compte qu'on ne peut pas s'enfuir. Même étant à 6000 kilomètres de là, on ne peut pas s'enfuir. Je suis restée en France et j'ai dû travailler dans le ménage. J'ai fait tous ces métiers en tension qu'on peut citer aujourd'hui. J'étais dans la restauration. En 2003, j'ai créé une entreprise de cosmétiques exotiques que j'ai gérée pendant 5 ans avec un salarié, un apprenti. Et je me suis retrouvée face à une situation où j'étais au tribunal qui m'a posé une question sur mon activité. Et du fait que j'avais vécu ces violences à l'enfance, j'ai pas osé m'exprimer. Aucun mot était sorti de ma bouche. Or, je tenais la clé de beaucoup de changements dans les vies des personnes. Et en sortant du tribunal ce jour-là, j'ai eu tout le rappel de ma vie qui est venu sur mes yeux, qui est venu à l'esprit. J'ai d'un coup fermé le magasin et j'ai décidé de faire quelque chose, sachant que tout ce que j'avais vécu, je n'avais jamais parlé à personne. Et j'avais décidé ce jour-là qu'il y en avait assez et qu'il fallait sortir de là. Je suis allée dans les rues rencontrer des sans-abri. J'en ai rencontré pendant 3 ans. Et j'écoutais leurs histoires. Et en écoutant ces histoires-là, je me soignais moi-même. Ça m'a aidée à traverser justement toutes ces souffrances que j'ai eues. J'ai fait une reconversion en allant travailler, occuper un emploi dans le textile. J'ai travaillé dans l'électroménager chez Envie. Et après cela, il y a eu une reconversion vraiment pour aller donner un sens à la vie de ces personnes souffrantes, puisque beaucoup, c'était naturel que ces personnes-là dans la rue venaient vers moi demander de l'aide. Donc, à un moment donné, même si on donne de l'aide alimentaire, de manière comme des maraudes, par exemple, à un moment donné, c'est pas assez. Il faut aller plus loin. Il faut apporter autre chose. Certaines personnes ont besoin de plus que de l'aide alimentaire. J'ai décidé donc de rentrer en formation. Je me suis formée comme conseillère en insertion professionnelle. J'ai travaillé dans des entreprises handicapées. J'ai travaillé chez Arcis. J'ai travaillé aussi chez France Horizon comme conseillère en insertion et référente RSA, tout en travaillant en parallèle sur Ezra. Donc Ezra a été incubé pendant 6 mois à Nantes. Et ça a été incubé pendant 6 mois tout en travaillant. Et tout ça a vraiment donné cette volonté, cette envie de créer quelque chose qui puisse justement aider les personnes qui n'osent pas franchir le pas et aller vers leur projet. Et nous savons que dans les quartiers, que ce soit dans les quartiers, même dans l'administration, il y a beaucoup de personnes qui occupent un emploi qu'ils n'aiment pas ou parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et ces personnes-là n'osent pas non plus franchir le pas et aller vers leur choix fondamental, leur choix d'emploi fort fondamental. Beaucoup exercent parallèlement des activités créatives, que ce soit dans la peinture, la cuisine, la couture, beaucoup de créations. Et ces personnes-là n'osent pas aller vraiment faire ce travail-là, qui est leur passion. Et donc Ezra est là pour les encourager à oser franchir ce pas et aller vers ce projet qu'ils souhaitent vraiment développer, quitte en le faisant en parallèle de leur emploi, mais surtout de faire ce qu'ils aiment. Donc c'est ça l'épanouissement. L'épanouissement professionnel, ou l'épanouissement, lorsqu'on est épanoui professionnellement, on est épanoui aussi dans sa vie de tous les jours. Ça contribue, en tout cas.
Un témoignage riche, précieux, qui nous a vraiment, qui nous a scotché, et puis un projet incroyablement humain que tu portes au travers de Ezra, Emma. On va continuer à en parler, puis on va pouvoir aussi débattre de cette question de la diversité, du regard qu'on porte aussi, parce qu'il y a beaucoup, question du repli sur soi, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des nations en ce moment, donc on va pouvoir en débattre un petit peu tous ensemble. Dans Topette, on se fait une pause musicale un petit peu pour digérer tout ce qu'on vient d'évoquer. On écoute Kampala de Gondawa, un groupe local angevin qui justement fait aussi un peu dans la diversité musicale.
My wife, believe.
Kampala de Gondawa sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Ce soir, nous sommes avec beaucoup, beaucoup de sujets, d'invités. Nolou annoncera avec un artiste tout à l'heure. Tu peux rappeler son nom si tu l'as sous les yeux.
On sera avec Christophe Crépin, du coup, pour parler d'œuvres d'art. Voilà, bah, comme on parle maintenant d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. D'une certaine façon, tout est relié. On va être en cinéma plutôt tout à l'heure, dans quelques instants, avec le CLAC. On sera avec Guenel et Nicolas. Mais avant tout ça, on reste avec toi, Emma. On parlait du Salon de la Diversité. Premier salon porté par Ezra, l'association dont tu nous viens de nous parler à l'instant, juste avant la pause musicale, avec tout ton parcours qui est lié. Hein, c'est indissociable de ce que tu as vécu, de ce que tu portes maintenant, de la parole que tu portes. Et justement, si on s'intéresse un petit peu aux activités concrètes, comment ça marche, Ezra? Qui compose cette association en plus de toi? Quelles sont les activités, les rendez-vous peut-être, les projets futurs aussi, Emma?
Oui, Ezra est ouvert à toute personne hein, qui se trouve dans la vision, à qui cette vision va parler. Ça va être des artisans, des auto-entrepreneurs. Pour la plupart de ceux qui font partie de l'association, ce sont des auto-entrepreneurs et des personnes qui ont eu la volonté d'oser franchir le pas et aller vers leur projet. C'est également ouvert à l'international, puisque sur ce premier salon, cette première édition, nous allons avoir des œuvres, des toiles d'un artiste peintre, plasticien ivoirien et également à des productions artisanales venues de la Côte d'Ivoire qui seront justement exposées. Et dans le futur justement Ezra a cette volonté de faire des expositions toujours au Digital Village de ces artistes venus d'ailleurs.
Alors comment ça marche? C'est toi qui démarches, entre guillemets, qui est en contact avec d'autres réseaux? On parlait de l'association ASBI tout à l'heure. Ou alors ce sont aussi les artistes, il y a cette volonté de faire connaître Ezra pour que les artistes elles-mêmes puissent venir vers toi et partager leur situation et puis leur besoin aussi de... C'est difficile parce que du coup c'est un public qui souvent est dans une problématique d'acceptation aussi de son art, de est-ce que je suis légitime d'une certaine façon, est-ce que je suis au bon endroit. C'est pas évident de raccrocher avec les personnes qui sont concernées par Ezra.
Oui, pour des personnes ici, beaucoup fonctionnent par le bouche à oreille. C'est une personne ayant fait une rencontre avec Ezra qui va à son tour parler à une autre personne. Donc majoritairement, les personnes qui sont venues nous voir sont venues par le bouche à oreille. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette communication vers les réseaux sociaux des activités que nous faisons, que ce soit par exemple l'accompagnement des artisans sur le marché pour les permettre d'effectuer leur première vente ou encore de l'écoute du conseil, comment bien valoriser leurs produits par des mini on va pas dire formation mais des conseils sur le marketing hein, sur la
du
mise
coaching.
En valeur du coaching. C'est vrai que le coaching c'est un terme que je n'emploie pas trop. Je préfère conseiller les personnes. Après il y a des coachs aussi qui sont là pour vraiment coacher et ça apporte un déclic à ces personnes là de pouvoir avancer dans leur projet. Par contre au Cameroun, c'est la rencontre avec ASBI s'est faite lors d'un séjour hein, au Cameroun. Et comme on dit, le destin parfois met des personnes ensemble. On ne sait pas pourquoi, mais on finit par comprendre. ASBI, c'est une rencontre d'une très grande femme hein, qui est la présidente lors du défilé la Journée internationale de la femme. Et nous avons échangé vu qu'elle est dans cette association et que Ezra a cette volonté de valoriser les talents. Étant moi-même camerounaise, c'était normal. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider justement les Camerounaises, même ceux qui sont en France, comment je pourrais les aider? Et l'idée est venue de valoriser, hein, d'amener ces produits, de les faire connaître en France et puis et vice-versa.
Tu as la chance, enfin je sais pas si c'est une chance, en tout cas on semble tous d'accord autour de la table du studio pour dire que c'est une chance, la diversité, c'est une plutôt une force en faveur du collectif, de que chacun puisse s'exprimer et qu'on puisse donner la chance à tout à chacun de d'être ce qu'il est dans sa diversité, la plus noble, la plus propre. Et pourtant, tu portes quel regard toi sur justement ce regard qui est porté globalement dans nos sociétés aujourd'hui? Il y a des... On n'a pas un bon regard sur les questions de migration, ne serait-ce que même d'un pays européen à un autre. Trump a été réélu aux États-Unis, on a plutôt tendance à se replier sur soi. Quel regard tu portes sur cette société qui semble ne pas aller dans le bon sens?
Alors, je ne sais pas si je suis très bien placée pour juger ce que les États ou les autres font, mais de mon point de vue de fondatrice d'Ezra Inclusion et de la vision que Ezra Inclusion porte, il est important de casser certains stéréotypes, hein, de casser des stéréotypes et d'avancer dans cette image que la diversité nous apporte des richesses. La diversité n'a pas uniquement le côté négatif. Il y a de la richesse, il y a de la richesse culturelle, il y a de la richesse humaine. Il y a énormément de richesses dans la diversité, sous condition d'être ouvert, bien sûr.
On a trop peur, tu penses, de la différence? Nous, à l'échelle de nous-mêmes, des individus envers les autres?
Des fois, lorsqu'on n'a pas connaissance de quelque chose, on a tendance d'avoir peur. Et l'idée serait de oser franchir le pas. Et chez Ezra Inclusion aujourd'hui, nous demandons aux personnes d'oser franchir le pas, d'aller vers les autres, d'aller vers cette ouverture, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses à découvrir, mais il faut oser franchir le pas et y aller.
Et justement, le Salon de la Diversité sera l'occasion d'aller franchir ce petit pas. Par exemple, c'est les 29 et 30 novembre au Digital Village ou Digital Village en fonction
de l'accent
qu'on veut y mettre. On redonnera toutes les infos pratiques, si tu le veux bien, tout à l'heure, Emma, en fin d'émission. Franchir le pas, c'est aussi quelque chose que vous encouragerez à faire dans un autre domaine, Nicolas. Non pas Nicolas Content qu'on va recevoir dans quelques instants, mais bien Nicolas de Vélopédia qui nous parle, comme son nom l'indique un petit peu, de vélo ce soir dans Topette.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Salut la team cycliste. On se retrouve à nouveau à l'heure de la débauche. Et je me demande si certains vélotaffeurs me reçoivent dans l'oreillette. Si oui, je vous confirme, 5 minutes d'avance. 5 minutes d'avance sur le peloton des voitures en ville. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'avais rencontré Virginie, jeune retraitée qui se déplace à vélo partout et a vendu sa voiture. Et bien dans cette même aventure, j'avais rencontré Marianne qui, elle, est bel et bien une vélotaffeuse et nous raconte son voyage. On l'écoute.
Je m'appelle Marianne, j'ai 40 ans, je me déplace à vélo parce que je travaille à Angers, j'habite Saumur, donc c'est une combinaison TER plus vélo. Mais par ailleurs, je suis à vélo à peu près une heure par jour, y compris pour mes déplacements perso. Maintenant, j'ai plus de voiture personnelle, donc tout se fait à vélo à Saumur et dans Angers pour mes déplacements entre deux sites, comme là où vous me trouvez en ce moment.
La fast life donc pour Marianne qui me confiait se déplacer très régulièrement entre Angers et Saumur et avoir clairement opté pour le vélo car, sur tout point de vue, il remplace la voiture.
J'ai un vélo pliant et donc dans le train c'est vraiment l'idéal, ça permet de pas attendre le bus en plus d'attendre le train. Ça me permet de transporter aussi dans ma sacoche devant largement de quoi travailler, plus faire les courses avant de reprendre le train si besoin. Je gagne du temps. Moins de stress pour me garer et puis ça me permet de faire du sport entre deux tâches du travail. Le point positif c'est de s'aérer en journée et le point négatif c'est mon rêve de la ville idéale où on n'a pas besoin d'accrocher son vélo avec un antivol parce que on sait que tout le monde est équipé d'un vélo et donc on n'a pas besoin de se les voler les uns les autres.
Vous l'entendez donc, comme Virginie déjà, Marianne signale à nouveau la difficulté pour mettre son vélo en sécurité quand elle en a besoin. Un vélo adapté à son utilisation, puisque compact et maniable, entre chargement dans le train et parkage sur différents lieux pas toujours adaptés. Elle reste tout de même enthousiaste à l'idée de convaincre les gens de faire du vélo.
C'est difficile toujours pour moi de prêcher la bonne parole parce que je suis sur un vélo depuis très longtemps, donc j'ai pas cette appréhension liée notamment au trafic. Je pense que c'est bien de commencer peut-être par des vacances à vélo, sur une voie verte, sur un canal pour se rendre compte qu'on va vite, qu'on peut voir beaucoup de choses à vélo. Et puis après l'intégrer dans un second temps dans une ville avec peut-être un niveau d'attention plus soutenu pour partager la voie avec les piétons et les voitures.
Je remercie Marianne de vous avoir partagé son expérience. Sachez que cette chronique bénéficie de la certification piste cyclable qui certifie les chroniques Vélopédia ayant été enregistrées sur une piste cyclable au cœur de l'action pour vous témoigner de la réalité. D'ailleurs, pendant cette interview, nous pensions voir notre super-héros Vélocipèb, défenseur de la circulation des vélos à Angers, mais peut-être était-il déjà occupé à sauver d'autres cyclistes en danger. Alors promis, si je le croise, je vous ramène une interview. Ciao.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Et Vélopédia, on retrouvera cette chronique vélo cycliste d'Angers, et puis de tout ailleurs d'ailleurs, dans deux semaines dans Topette. Et sinon, c'est en podcast plus sur le site internet de Radio G. D'un Nicolas à un autre, il n'y a qu'un coup de pédale, que voici qu'on fait.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Depuis tout à l'heure, on parle de toi Nicolas Content. Tu étais venu la saison passée nous parler d'une de tes réalisations qui était projetée dans le cadre du groupe Plateau Ciné de la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin qui prend le nom de Claque. C'était peut-être déjà le cas là, on l'an passé, que je m'en souviens pas, je pense que c'était le cas effectivement. Et tu es venu avec Guenel. Bonsoir Guenel.
Oui, bonsoir. D'ailleurs,
c'est même l'inverse puisque c'est Guenel qui est venu avec Nicolas, mais ça peu importe. Ensemble, on va parler de la projection qui a lieu jeudi 28 novembre, donc c'est dans deux jours seulement, le film Le Ballet Libéré de Colin Grando. Suivi d'un débat ensemble, tous après. On va parler du CLAC, peut-être le collectif pour le lieu artistique et culturel, Camille Lepage, la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, tout ça, ça s'est mis ensemble très récemment. C'est toi, Guenel, qui voulais te lancer dans cette aventure de nous présenter ce qu'était le CLAC, je crois.
Oui, alors tout simplement, le CLAC, c'est un groupe d'habitants bénévoles. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils œuvrent auprès de la municipalité d'Angers pour monter des dossiers parce que nous désirions une salle de spectacle dans le quartier. Et c'est chose faite depuis le mois de mai 2023. La salle de spectacle se trouve dans la maison de quartier pour notre plus grand bonheur puisqu'on mutualise nos énergies en fait. Et donc, je disais, nous sommes des bénévoles, mais aidés grandement par les professionnels de la maison de quartier, bien sûr. Donc, nous faisons de la programmation, de l'accueil, de la communication. Et surtout, je voulais faire passer un message comme quoi, si d'autres personnes bénévoles du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus. C'est tout à fait agréable et convivial. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, nous avons plusieurs sous-groupes, groupe conférence, apéro concert, spectacle vivant, exposition, spectacle jeune public et le groupe communication. Et nous, avec Nicolas et d'autres personnes, nous sommes dans le groupe Plateau Ciné.
Voilà, donc pour résumer très brièvement, le CLAC, c'est l'association qui anime, c'est le collectif d'habitants qui anime la maison de quartier et puis notamment la dimension culturelle, si je résume bien ce que tu as dit, Guenel. Et toi précisément, notamment avec Nicolas, vous animez le groupe Plateau Ciné. Donc là, il y a une programmation en gros tout au long de la saison avec des dates qui vont être fixées avec des projections, c'est ça Nicolas?
Oui, c'est ça. Donc on projette 5 films environ dans l'année. Des films qu'on repère, qu'on se partage, et on essaye de montrer en général une fois dans l'année des films qui sont produits dans la région. On essaye de montrer des films en partenariat avec Cinéma d'Afrique, et on essaye aussi de montrer des films en partenariat avec le festival qui s'appelle Filmer le Travail, qui est à Poitiers, qui est un festival dans lequel je suis investi par ailleurs. Et donc ce sera le cas là pour jeudi, du film qu'on va montrer, qui a été montré d'abord à Filmer le Travail à Poitiers.
Une programmation pleine de diversité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour rester dans ce thème-là, du coup. Guenel, un petit mot peut-être sur Nicolas, qui semble très investi aussi pour cette programmation. Il y met du cœur.
Ah oui, absolument. Il nous est indispensable puisque, il est du métier, il nous donne ses conseils et
il rougit actuellement.
Oh. Et c'est vrai que lorsque nous visualisons plusieurs films, il aime bien nous faire réagir, nous faire discuter entre nous pour voir le pour, le contre, comment le public, qu'est-ce qu'il attend, qui est-ce qu'on invitera pour le débat, parce que nos projections sont toujours suivies d'un débat avec soit un réalisateur, soit une personne concernée par le sujet. Donc oui, vraiment, Nicolas, il nous est précieux.
Et ben justement, parlons très concrètement de ce qui arrive jeudi 28 novembre du côté de chez vous, avec le Ballet Libéré de Colin Grandeau. Ce film-là, déjà, pour en parler, Nicolas, puisque tu disais que tu l'avais choisi du côté de Poitiers, c'est ça hein, tu
oui,
peux peut-être nous en toucher quelques
travail.
Mots
Oui, donc le Ballet Libéré, c'est un film qui raconte l'histoire d'ouvrières dans une société de nettoyage qui sont en conflit avec leur patron et qui décident de licencier leur patron par un acte symbolique comme ça et qui par la suite, après quelques semaines de lutte, constituent une coopérative et elles passent de statut de salarié à statut de travailleur coopérative. Et le film se construit comme ça sur des témoignages où on voit l'alliance qu'il y a pu avoir à l'époque entre les étudiants de l'université dans lesquels cette société de nettoyage travaillait et puis les travailleurs travailleuses de l'entreprise de nettoyage. Et ça rentre en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans plus tard, puisque cette histoire date des années 75. Et donc on voit comment les travailleurs de nettoyage de cette université, 40 ans après, sont pris dans des conditions de travail qui sont très très difficiles dues à des politiques managériales de l'entreprise, des logiques de sous-traitance, etc. Et donc, il nous a semblé que ce film était intéressant à montrer dans un contexte, effectivement, où on aimerait bien que le monde du travail soit plus enchanté qu'il n'est, où les conditions de travail des uns et des autres sont souvent difficiles. Et il nous semble que l'expérience coopérative est intéressante et éclairante. Et donc pour ça, on a décidé d'inviter des gens qui ont monté des coopératives ou qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on parle de Patrick Moisan, qui était le dirigeant de la SADEL, qui est une SCOP, une coopérative de production, et qui est administrateur de l'IRESA, qui est le réseau de l'économie sociale et solidaire. Et on aura aussi Chantal Pichot, qui vient de l'Union départementale de la CGT, parce qu'effectivement, il y a dans la logique autogestionnaire des coopératives une perspective de mise en question du travail tel qu'il est, une dimension militante, je dirais.
Oui, un film toujours d'actualité, malheureusement, même si l'histoire date d'il y a plus de 40 ans maintenant, avec des débats et des échanges qui promettent d'être animés et riches, divers aussi, et encore de la diversité. Un gros chantier, organiser tout ça, j'imagine, Guénaëlle, là, dans deux jours, ça va être la pression va monter.
Oh, oui et non, parce que c'est quelque chose d'agréable, on a vraiment hâte à cette soirée, et puis vraiment, j'invite les gens à venir, parce qu'en plus, Colin Grandeau a vraiment très très bien filmé à la fois les nettoyeuses hein, qu'elles s'appelaient à l'époque dans les années 70 et les actuels travailleurs et c'est vraiment très très bien fait avec des témoignages je vous invite vraiment à venir et non on n'a pas la pression, on est heureux de cet événement.
Et ben puisque Guénaëlle nous invite à venir, on va vous proposer d'y aller, on va vous donner les infos pratiques dans quelques instants avec Nicolas. On va juste faire un petit détour par Bushman, je crois, avec toi Nolwenn.
On parle peinture, art et plus précisément aquarelle avec Christophe Crépin, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui.
Vous êtes artiste plasticien près de Rennes, à Saint-Grégoire précisément. Et avec vous, on va parler du lieu que vous allez ouvrir. Ça se nomme le Cube Carré d'Art. Ça sera chez Philippe Louvet-Guérif, au 20 quai du Port-Boulet à la pointe de Bushman. Le vernissage se fera ce vendredi à 18h et l'exposition elle sera là tout le week-end. Vous serez présent sur les lieux. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, nous montrer un petit peu à quoi va ressembler, qu'est-ce que c'est cette exposition?
Oui, c'est toujours difficile à la radio de montrer, mais donc il y aura des aquarelles, des dessins à l'encre bleue monochrome aussi, c'est un petit peu nouveau cette année, ça fait même un an et demi, et puis quelques toiles aussi. Alors, il y aura bien sûr quelques œuvres, j'aime pas dire œuvres parce que c'est pas à moi de dire œuvres, mais il y aura quelques travaux sur la région, sur ce bord de Loire qui est magnifique, donc à la pointe, là, donc c'est Philippe Louvet-Guérif qui ouvre ce nouveau lieu d'exposition. Ce sera un lieu d'accueil, de partage de l'art. Donc le lieu est magnifique, on y voit la Loire au loin, puisque la pointe c'est bien sûr la Loire et la Maine qui se jettent ensemble dans un seul et même fleuve. Donc il y a une grandiosité, si je peux dire, du lieu. Donc voilà, et c'est dans un petit espace bien intime où il y aura quelques aquarelles de Paris, puisque j'expose à Paris au mois de décembre, donc un peu en avant-première. Et puis des aquarelles donc du régional du site, vraiment dans la petite rue de Port-Boulay qui sont magnifiques, la place où il y a pas mal de bars, brasseries, magasins. Et puis peut-être d'autres surprises, donc à venir voir sur place. Voilà.
Est-ce qu'il y aura un thème général à ces œuvres? Est-ce qu'elles suivent un fil particulier ou pas spécialement?
Bah écoutez, depuis deux ans là, je travaille sur les toits de Paris. Voilà, je suis fasciné par ce genre de matière picturale qui est issue des toits de Paris. C'est pas une représentativité des toits avec les cheminées, les zincs, etc. qui sont magnifiques, mais j'en fais une matière aussi bien de dessin que de couleur. Donc voilà, et ça fait, je vous dis, deux années que je travaille dessus. Il y a certaines œuvres qui ont été exposées à Art Capital les deux dernières années, donc des grandes aquarelles. Enfin, peut-être le fil conducteur, puisque comme c'est un peu une avant-première, ce seront le thème particulier, mais il y aura Paris, je dirais, avec ses toits en zinc, mais aussi Paris avec des tours, c'est-à-dire cette saturation des espaces urbains. Donc voilà, je pense en mettre quelques-unes aussi. Voilà, il y en aura peut-être dans les jardins, puisque le lieu est très beau, avec des pins, c'est maritime. Donc on se croirait un petit peu en vacances. Donc je pense que j'ai cru voir qu'il faisait beau ce week-end. Donc ce serait une balade super. Hein, et moi, je serai là tout le week-end, voilà, pour échanger.
Vous pourrez échanger, c'est ça, avec les visiteurs?
Bah oui, c'est ça qui est important. C'est ça. Moi, c'est un outil de communication fantastique, quoi. Voilà.
Est-ce qu'ils pourront acheter vos œuvres? Ce sont des œuvres qui seront à vendre ou qui seront exposées plus tard par la suite, autre part?
Non. Ils seront à vendre aussi. Donc, il y a tout format, des petits pour éventuellement les cadeaux de Noël. Ça va de petits formats, des miniatures. J'aime bien faire des miniatures, mais j'aime bien faire des grandes toiles aussi. Donc, ça fait des formats qui sont d'une hauteur de 140 par 90 de mémoire à peu près. Donc là, ça a été des grands formats.
Voilà. Il y en aura vraiment dans tous les goûts, c'est parfait pour Noël.
Oui, c'est ça. Faut privilégier les moments heureux. Voilà, moi c'est ça. C'est montrer que la vie est une chance déjà d'être là et un peu en paix pendant ces moments de fête. Voilà.
Et si on parle un petit peu plus de vos œuvres à vous, vous êtes passionné de peindre la réalité, les paysages, la nature, mais aussi les bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des endroits de France qui vous inspirent particulièrement et que vous peignez? Qu'est-ce qui vous inspire en plus des toiles Paris? Est-ce qu'il y en a d'autres?
C'est tout ce qui est le bâti, c'est-à-dire j'ai un passé, je peins depuis que je suis tout petit, mais j'ai fait des études d'architecture d'intérieur et tout ce qui est lié au patrimoine est pour moi une source d'inspiration sans fin. C'est un respect aussi de ce qui a été fait auparavant. Donc je crois que la peinture ne doit pas être juste descriptive, mais elle doit raconter des histoires. Vous voyez là au Port-Boulay, je reviens toujours à ce site, mais quand on regarde un petit peu l'histoire de ce site près d'Angers, il y a toute une histoire sur des hommes et des femmes bien sûr qui manipulaient des marchandises le long des quais de Loire. Alors vous me parlez d'autres lieux, moi il y a la Bretagne, voilà, moi je suis pas originaire de la Bretagne, mais je suis originaire de la Picardie, d'un petit village qui s'appelle Coucy-le-Château, qui s'appelle toujours Coucy-le-Château dans l'Aisne, et qui était une forteresse vraiment très très importante au Moyen-Âge. Voilà, ça a été détruit pendant les guerres, malheureusement, mais je suis né dans les pierres. Qu'est-ce qui qu'il y a d'autres. Il y a le sud aussi. Mais vous voyez, c'est sans fin. L'année dernière, j'ai fait un grand voyage en Sicile. Alors là, la Sicile, c'est une terre de patrimoine incroyable. Donc là, on repart dans une atmosphère un peu romaine, parce qu'il y a beaucoup de temples, etc. Mais vous voyez, le fait de peindre à partir du bâti, pour moi, c'est une source inépuisable de bonheur, d'admiration. Et surtout, ce que j'essaye de faire, c'est de faire passer ça aux jeunes générations. C'est-à-dire, pas un héritage, mais regarder ce que les autres ont fait. Donc, voilà, essayons de les préserver, quoi.
Ils sont nombreux, les lieux qui vous inspirent.
Oh, ah oui, oui.
Vous peignez du coup beaucoup à l'aquarelle. Est-ce qu'il y a des méthodes ou d'autres supports que vous appréciez particulièrement?
L'encre de Chine.
Et vous parliez tout à l'heure de dessin à l'encre bleue.
Oui, ouais, c'est ça. C'est monochrome. Au départ, j'ai commencé par l'encre de Chine noire. Après, c'est l'encre de Chine sépia. Mais je trouvais qu'il y avait un peu de nostalgie. J'ai pas envie de nostalgie en ce moment. Et le bleu donne un dynamisme à l'époque que je veux insuffler un petit peu. Donc, c'est vraiment du dessin plume-pinceau. Donc, c'est proche parfois un peu de la calligraphie. Mais tout en respectant les proportions du bâti, de belles maisons, là au bord de la Loire, il y a des très très belles maisons. Le petit Séran, c'est magnifique, en tuffeau. Il y a plein de petites ruelles, alors j'en ai fait quelques-unes. Là. Et c'est s'émerveiller de choses simples. Voilà,
et ben merci beaucoup à vous, voilà. Christophe Crépin, d'avoir répondu à toutes mes questions. On le rappelle, donc vous êtes artiste plasticien. Vous allez donc ouvrir le lieu nommé le Cube. Ça sera au 20 quai du Port Boulay à la pointe de Bouchemaine pour exposer vos œuvres. Et ça sera donc ce week-end.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Et Topette, c'est fini pour ce soir. Oh là là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. On va reprendre les choses par ordre d'apparition, puisque nous étions d'abord avec toi, Emma, concernant le Salon de la Diversité, et Ezra Inclusion, l'association qui porte tout ça, qui elle-même est le reflet de ton histoire et de la parole que toi-même tu souhaites porter. Qu'est-ce qui est important de retenir très concrètement, peut-être pour le Salon de la Diversité ? Digital Village, c'est ça le lieu déjà à retenir.
Le lieu, c'est Digital Village, et c'est le 29 et le 30. De 10h à 18h, arrêt de tram à Jean Moulin et le bus Ezeo.
Voilà, très accessible, même en bande ou piste cyclable. On peut...
Même à pied.
Même à pied, même à vélo.
Même à vélo.
Et on pourra
parking à proximité et gratuit.
Et on pourra découvrir du coup le magnifique travail de certains artistes d'Asby.
D'Asby, exactement, les jolies poupées. Naturel, hein, fabriqué par les femmes de l'association ASBI.
Concernant Ezra Inclusion, est-ce qu'il y a d'autres actualités qui vont arriver très prochainement, d'ici l'année prochaine peut-être ?
D'ici l'année prochaine, justement, Ezra organise du 6 au 11 janvier prochain une exposition et des objets d'art venus d'Afrique. Sur cette semaine-là, il y aura des activités toujours au Digital Village.
Et on se tiendra bien évidemment informé, mais on compte sur toi.
Oui. Merci beaucoup à Radio G. On sera là au top.
Et peut-être
pour les informations.
Peut-être que ton témoignage, ta parole a eu un certain écho, une résonance dans l'oreille de nos auditeurs auditrices. Et peut-être que des personnes souhaiteraient aussi rejoindre Ezra Inclusion pour participer, donner des coups de main. Est-ce qu'il y a des infos pratiques, un site internet vers lequel ils peuvent aller?
Oui, le site internet, vous pouvez aller sur Ezra, donc E-Z-R-A-S, point, Ezra Inclusion, E-Z-R-A-S, inclusion.
Au pluriel.
Point org. Voilà, au pluriel. Point org. Ou alors, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, très actif sur LinkedIn, Facebook, tous nos réseaux sociaux. Et si les personnes veulent vraiment joindre Ezra, qui n'hésite pas, nous sommes là pour la diversité, pour aider à oser franchir le pas.
Et si vous étiez en train de conduire, rassurez-vous, rentrez chez vous, allez sur internet et le podcast, il y a le lien simplement d'Ezra Inclusion qui est dans la description du podcast. Merci beaucoup Emma en tout cas, on te souhaite plein de bon courage pour ce qui arrive ce week-end et puis on se dit à très bientôt du coup.
Merci à vous, merci Radio G pour ces temps et surtout merci au public H20 à tous ces commerçants qui ont accueilli les flyers, les distributions de ces flyers Ezra, pour relayer le message.
Merci à toi surtout de porter cette parole qui est très importante. Nicolas Guenel, une autre parole au travers de films. Alors il y a le CLAC, on pourra en parler, la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, mais aussi là du coup cette date qui arrive le 28 novembre avec cette projection et suivie d'un débat, d'un échange. Qu'est-ce qui est important de retenir? Les infos pratiques, on doit payer ou pas, Guenel par exemple?
Alors l'entrée est de 4 euros, et si vous avez un tarif réduit, les cartes partenaires, les étudiants, les gens au RSA, c'est 3 euros l'entrée. Hein. Donc c'est le 28 novembre à 19h30, salle Camille Lepage, hein, c'est la salle de spectacle de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, c'est à l'arrêt de tram Hauts-de-Saint-Aubin, ou le bus à l'arrêt Fraternité. Et ben voilà, vous pouvez réserver sur le site de la maison de quartier, hein, sur internet, c'est sous ticket, hein, le site de réservation. Voilà, c'est ça.
Radio G, en RNT à Angers. Radio G, un point, c'est tout.